Erasmus est un programme européen qui couvre l'ensemble des pays européens depuis 2007 et il est étendu aux pays du voisinage de l'Europe, notamment le Maroc. Le Maroc bénéficie d'à peu près une centaine de bourses par an. Donc il y a différentes composantes. Une composante bourse pour les étudiants, une composante bourse pour les chercheurs, une composante bourse d'excellence pour quelques étudiants pour des études plus pointues. Il y a une enveloppe financière pour le Maroc qui finance donc la participation d'étudiants marocains au programme.
C'est-à-dire que depuis début 2015, en fait, il faut parler de Erasmus+, uniquement, il ne faut plus parler d'Erasmus. Et donc, comme l'a dit Philippe, Erasmus+ couvre désormais toutes les actions qui se font dans la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et la nouveauté aussi, en fait, depuis 2015 avec Erasmus+, c'est que c'est ouvert au monde entier. Donc le Maroc et les pays du voisinage étaient déjà des pays partenaires depuis 2007. Mais maintenant, il y a vraiment le monde entier qui est partenaire. Donc, par exemple, dans les programmes de capacity building, c'est-à-dire de renforcement de capacité entre universités, on peut avoir des partenariats entre des universités marocaines, des universités d'Afrique, de pays d'Afrique subsaharienne et des universités européennes. Ça, c'est une nouveauté. Et effectivement, en termes de mobilité, on peut peut-être ajouter que le Maroc est très preneur de ce programme et que les universités marocaines sont très présentes dans tous les appels à propositions qui sont lancés.
Il faut comprendre que l'éligibilité des programmes, ce sont des consortiums d'universités européennes, des universités marocaines, qui présentent un appel à propositions de l'Union européenne, des propositions de collaboration. C'est à l'intérieur de ces propositions qu'il y a des bourses, que ce soit pour des chercheurs, que ce soit pour des administrateurs des universités ou que ce soit pour des étudiants. Alors, il est évident que sans une centaine d'étudiants par an pour le Maroc, ce n'est pas énorme. Et donc, ce qu'on est en train de voir, d'essayer d'étudier avec la coopération, c'est comment est-ce qu'on peut élargir cette offre de bourses, notamment en construisant des ponts et des relations de jumelage entre universités européennes et marocaines, élargir l'offre de bourses à des étudiants marocains vers l'Europe. C'est un programme auquel on réfléchit qui pourrait entrer, qui pourrait être financé en 2018. L'appui aux étudiants, mais aussi aux travailleurs, jeunes travailleurs dans des entreprises, des échanges entre entreprises européennes et des entreprises marocaines, pour des apprentis qui pourraient aller se spécialiser dans des entreprises européennes et vice-versa.
Le critère le plus important, c'est effectivement d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur marocain et que cet établissement ait signé une charte interinstitutionnelle Erasmus+, avec des universités des États membres. Donc une fois que cet étudiant est inscrit, il doit aller voir le service de coopération internationale de son université pour voir avec quelle université il pourrait faire l'échange. Et ensuite, c'est l'université qui fait un choix parmi tous les candidats. Donc évidemment, il y a des critères après de mérite qui entrent. C'est chaque université, parce que chaque université aussi précise ses priorités. Par exemple, ça peut être des filières en sciences sociales et humaines, des filières en ingénierie. Donc chaque université a ses spécialités, ses priorités, etc. Donc l'université signe une charte, comme j'ai expliqué, une charte Erasmus+, avec les autres universités. Mais après, c'est vraiment l'université qui sélectionne ses propres candidats. Par contre, je voudrais préciser aussi que la bourse qui est donnée est une bourse assez conséquente et qui permet vraiment de suivre ses études dans de bonnes conditions. Les montants sont fixes, donc pour un étudiant, c'est entre 750 et 850 euros par mois. À quoi s'ajoute la prise en charge du billet d'avion, des frais de visa, des frais d'assurance. Et puis les bourses pour les doctorants et pour les professeurs sont plus importantes.
Mon nom c'est Fouad Ammour, avec mon équipe composée de 4 personnes plus moi-même, 5. On est 5 personnes dans cette équipe. La plupart de ces projets sont des projets du renforcement institutionnel. L'un des avantages majeurs de ce programme-là, c'est que l'équipement profite exclusivement aux pays partenaires, en l'occurrence le Maroc. avec une expertise européenne, mais bien sûr dans le cadre d'un échange sur un pied d'égalité. La finalité, c'est que le Maroc, c'est que le système de l'enseignement supérieur marocain puisse être au rendez-vous des normes internationales. C'est ça un peu l'alpha et l'oméga de ce programme. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Karima Razouani.
Bonjour, je suis Karima Razouani, universitaire, directrice adjointe du bureau Erasmus+ Maroc. Ma mission est d'assister M. Amour dans la coordination des différentes actions du programme Erasmus+ au Maroc, manager le bureau, donc né au Maroc, et participer donc aux missions de monitoring et de suivi des projets financés par ce programme-là au niveau des universités marocaines. Nous sommes donc une équipe qui sommes à la disposition de tous les chercheurs porteurs de projets universitaires qui souhaitent avoir de l'information au sujet de ce programme-là et des opportunités qu'offre ce programme. Et nous sommes aussi l'interface avec le ministère marocain de l'enseignement supérieur qui décline donc les priorités nationales, donc les axes prioritaires qu'il souhaiterait pour donc ce secteur de l'enseignement supérieur. Et notre mission est de diffuser aussi et d'inciter les universités à s'inscrire dans ces priorités nationales pour soutenir la réforme et l'amélioration du système d'enseignement marocain.
Donc parmi les actions clés du programme Erasmus+, il y a l'action numéro 1 qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation. Alors les individus, c'est-à-dire soit les étudiants, soit le personnel des universités, à la fois le personnel académique et le personnel administratif, managérial et administratif. Donc, dans le cadre de cette action clé numéro 1, il y a deux actions, ou deux types d'activités, on va dire, ou de sous-actions. La première, ça concerne ce qu'on appelle les mobilités internationales de crédit. Donc, ça concerne les étudiants, la mobilité des étudiants, mais également la mobilité du personnel enseignement, enseignant et académique. Le deuxième type de mobilité, et ça c'est quelque chose de nouveau, qui permet à nos étudiants de pouvoir acquérir une formation de qualité, hein, de grande qualité, dans le cadre de ce qu'on appelle, enfin de ce qui est appelé dans le programme, les masters conjoints internationaux. C'est-à-dire, c'est des masters internationaux dans lesquels il y a un consortium d'universités européennes et partenaires, dans le cadre du programme Erasmus+, et qui offre des masters internationaux qui sont ouverts aux meilleurs étudiants dans le monde entier et avec des bourses, bien évidemment, de haut niveau. Alors, je vais d'abord parler de la première activité dans le cadre de l'action numéro 1, c'est-à-dire la mobilité des individus à des fins de formation et d'éducation. Premièrement, pour ce qui concerne les étudiants. Donc, pour les étudiants, ça permet à un étudiant, enfin, cette action offre des bourses de mobilité à des étudiants marocains qui sont déjà inscrits dans une université marocaine, dans le cadre d'un cursus de licence, de master, d'ingénierie, etc., ou de doctorat, de pouvoir faire une partie de cette formation dans une université européenne, soit un semestre ou une année. D'accord ? Mais pas tout le diplôme. Donc c'est un peu la mobilité à l'image de ce qui se faisait en Europe avant les Timpus et l'Erasmus+, et les programmes Erasmus. C'est-à-dire, donc c'est une mobilité. D'accord ? Et donc, bien évidemment, pour que l'étudiant puisse bénéficier de ce type de mobilité, il faut que l'université marocaine ait signé, bien évidemment, un accord institutionnel avec l'université européenne concernée dans laquelle l'étudiant va effectuer une partie de sa formation. Donc, lorsque cette convention institutionnelle a été donc conclue, elle définit le nombre de bourses, bien évidemment, qu'il y a, le type de filière, de programme.
dans l'accord, on définit toutes ces choses-là. Donc, une fois que les étudiants, bien évidemment, ils sont sélectionnés par l'université marocaine, bien évidemment, en concertation avec l'université européenne, il y a des critères de sélection. Et donc, une fois que l'étudiant est accepté, donc il bénéficie bien évidemment d'une bourse de mobilité, il bénéficie également d'un appui pour le transport. Et il y a aussi une nouveauté maintenant dans le cadre d'Erasmus+, il y a un appui linguistique également dont l'étudiant peut bénéficier, donc par rapport à l'université, à la langue de l'université dans laquelle il va étudier. Donc, une fois que cette convention institutionnelle est établie, les étudiants sélectionnés, il y a un contrat pédagogique qui est signé par l'étudiant et par les institutions. L'institution d'envoi, donc marocaine, et l'institution d'accueil européenne. Il définit bien évidemment le type d'enseignement que l'étudiant va suivre en Europe et qui sont bien évidemment similaires ou compatibles avec ceux de la filière de formation au Maroc. Parce que par la suite, il y a une validation, l'université marocaine va valider le semestre ou le nombre de crédits en fait qu'elle a fait en Europe pour lui comptabiliser dans son diplôme qu'il va recevoir au Maroc. Donc il va avoir un diplôme d'université marocaine, mais dans le supplément de diplôme, bon, on va lui préciser qu'il a fait par exemple un semestre dans une université européenne et qu'il a fait les trois autres semestres du master par exemple dans l'université marocaine. Voilà donc pour les étudiants marocains. Bien évidemment, dans le cadre de cette mobilité d'étudiants à des fins de formation, il y a les mobilités entrantes, c'est-à-dire entrantes au Maroc. C'est-à-dire qu'également dans ces accords institutionnels, il y a un nombre de mobilités qui sont accordées pour des étudiants européens dans une université européenne et qui vont faire une partie de leur formation dans une université marocaine. Donc c'est la même chose. Hein. Donc il y a une réciprocité. Donc c'est un échange, exactement. Donc d'ailleurs, c'est un programme d'échange. D'accord. Donc au-delà, bien évidemment, de l'aspect formation, diplomation, il y a tout un aspect culturel, linguistique, humain, social qui est bien évidemment développé et c'est un des objectifs de ce programme au-delà de la formation. Donc voilà pour la mobilité des individus à des fins de formation côté étudiant. Alors la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation pour le personnel académique, c'est également, il y a un contrat. Il y a une convention institutionnelle, bien évidemment, la convention institutionnelle précise les mobilités étudiants, les mobilités personnelles, les mobilités entrantes, les mobilités sortantes. Et donc, pour les mobilités des enseignants, il y a deux types de mobilités. Soit des mobilités à des fins d'enseignement, c'est-à-dire qu'un enseignant marocain peut aller donner une formation dans l'université partenaire, ou bien un enseignant marocain peut aller dans les universités européennes pour suivre une formation justement qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de notre système d'éducation et du rapprochement d'une manière générale avec l'Union européenne à la fois sur le plan éducatif mais aussi sur les plans linguistiques, culturels, etc. Donc voilà un peu pour la mobilité des individus à des fins d'éducation. Et bien évidemment, là aussi, c'est les mobilités sortantes et entrantes aussi pour le personnel enseignant. Et puis il y a la mobilité aussi du personnel de management, si vous voulez, l'université, donc le personnel administratif également, là aussi il y a des mobilités qui peuvent. Alors pour les durées des mobilités, pour les mobilités étudiantes, ça varie entre 3 et 12 mois, et pour le personnel des universités académiques et administratifs, la durée est d'une semaine, enfin 5 jours à 2 mois. Donc voilà, je crois, pour l'essentiel. Alors, annuellement, il y a plus d'un millier de mobilités dans les deux sens qui sont. Ça englobe les mobilités entrantes et sortantes. Ce qu'on peut remarquer aussi, bon, vous avez des statistiques, je pense que cette année, il y a eu à peu près 1000, pour l'instant, il y a eu 1200, un peu moins, 1190, je crois. L'année dernière, il y en a eu, cette année, il y a eu 1200. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette année, le pourcentage des mobilités entrantes, c'est-à-dire de l'Union européenne vers le Maroc, a augmenté. C'est-à-dire là aussi, c'est un élément qu'on peut également mettre en valeur par rapport à ce programme. Donc voilà en gros le premier niveau, si vous voulez, de cette action clé numéro 1. Alors ça, bien sûr, quand je parle de la mobilité, ça peut concerner un enseignement, mais ça peut aussi concerner un stage de formation. Ça peut concerner les deux aussi. une partie formation, une partie stage, y compris dans des entreprises, hein, pas uniquement dans les universités. Donc, pour le deuxième type de mobilité dont j'en ai parlé tout à l'heure dans le cas de l'action numéro 1, c'est les masters internationaux conjoints. Alors, c'est quoi ça? C'est quelque chose de nouveau et quelque chose, à mon avis, qui va aussi créer de l'émulation pour nos étudiants, parce que c'est vraiment des masters d'excellence, parce que c'est des masters internationaux qui regroupent des consortiums importants d'universités, à la fois européennes mais aussi de la région euro-méditerranéenne, et donc qui vont permettre à nos étudiants, les meilleurs évidemment, ceux qui sont excellents et qui le souhaitent, de prétendre à une bourse de haut niveau pour réaliser un master complet dans le cadre d'un consortium. Master et doctorat, bien évidemment. Voilà. Alors, pour ce type de master international, pour les masters internationaux conjoints, chaque année, il y a une liste qui est mise à jour, bien évidemment, puisque chaque année, on sélectionne, enfin, la Commission européenne, dans le cadre du programme Erasmus+, sélectionne un certain nombre de masters conjoints internationaux. Donc, ils sont mis sur le site de la commission, et donc ils sont mis à jour annuellement, bien évidemment. Actuellement, je crois, je risque de dire une bêtise, il y a à peu près 350 ou un peu plus les masters, à peu près, il me semble, hein. Enfin,
c'est dans le,
il y a deux universités. Alors, bien évidemment, ces masters conjoints, c'est bien évidemment pour les étudiants, mais aussi pour les universités marocaines qui peuvent être membres dans ces consortiums là donc vous voyez que ça permet à nos étudiants, bien évidemment, de prétendre à des masters de qualité, mais aussi à nos universités d'intégrer des consortiums, des réseaux internationaux de formation, et ça permet, bien évidemment, tout ça permet d'améliorer, de relever aussi le niveau de gouvernance, le niveau de l'enseignement supérieur marocain. Voilà, je crois, en gros, voilà les deux types.
À part les mobilités des étudiants et de...
Alors, excusez-moi, j'ai pas terminé. Pour les masters internationaux, comme c'est expliqué sur le site de la Commission, mais aussi dans le site du NIO, du bureau du NIO Maroc, donc l'étudiant va aller dans la liste, ce catalogue, si vous voulez, des masters internationaux conjoints. Il va choisir le master qu'il souhaite par rapport à sa spécialité, bien évidemment. Et donc, il va, à travers le site du master de l'université considérée, il va trouver toute l'information, les modules, les qualitatives et quantitatives, les délais, les modalités, etc., etc., comment ça s'inscrire. Et donc, il dépose sa demande en ligne directement. Par contre, pour les mobilités individuelles de crédit, ça, il doit passer par son université marocaine, qui a contracté, bien évidemment, qui a un contrat institutionnel avec l'université européenne.
Bien, alors bonjour. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, vous avez sûrement entendu action clé 1, action clé 2, action clé 3. Moi, je m'occupe de l'action clé 3. Alors, d'où vient cette 1, 2, 3? Elle est issue d'un séminaire qui a eu lieu en 2012 à Bruxelles. Séminaire qui est devenu dialogue, le dialogue numéro 1, et qui a connu le lancement d'Erasmus+. Erasmus+, a hérité de tous les programmes antérieurs, et il s'est décliné en trois parties. L'action 1, c'est la mobilité. L'action coopération et le soutien à la capacity building, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, renforcement. Et puis l'action 3 regroupe le soutien au dialogue sur les politiques, les programmes, l'enseignement supérieur, etc. Et également le soutien à des outils ou instruments qu'on appelle les HERS. Alors les HERS, c'est en anglais High Education Reform Experts. Donc il s'agit, donc je vais rentrer dans ce HERS, ça, effectivement, l'objectif général, ça a été dit par Céamour, c'est la modernisation de l'université et un tant soit peu une mise à niveau et un rapprochement pour faciliter les mobilités à la fois des enseignants et des étudiants. Donc, facile, rapide, etc. plus ou moins compatible avec... Bon, ça avance, c'était pas évident. Il y avait le Bologne, enfin le processus de Bologne, c'est-à-dire une mise à niveau MLD très progressive, etc. Parce qu'il y avait également les mentalités, mais il y avait également les moyens. Beaucoup de moyens de soutien, c'est-à-dire le nombre d'enseignants et le nombre de salles, parce que le concept était autrement. Mais ça injecte quelque chose qui s'appelle modernité, c'est-à-dire une université moderne, ouverte sur son monde socio-économique et utile pour l'employabilité. Sinon, elle ne peut pas s'insérer dans le processus social. Alors, ce dialogue 1, il était à Bruxelles. Depuis, il y a eu le dialogue 2, la même chose en 2014. Il y a eu le dialogue 3 en 2016. Alors, ce forum, il regroupe à peu près entre une centaine, 120 personnes de haut niveau, c'est-à-dire les décideurs. Les décideurs et les gens qui sont impliqués dans l'enseignement, la conception, l'évaluation de processus à la fois de formation, de l'enseignement. Donc, c'est évidemment la coopération. On ne fait pas de la recherche, c'est autre chose. La recherche, il y a un autre programme de recherche. Donc, et beaucoup d'argent. D'ailleurs, l'Union européenne, quand elle a lancé Erasmus+, pour tous et partout. Alors, pour tous, c'est-à-dire européens et non-européens, partout, c'est sur les 5 continents. C'est quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une conviction que seul l'investissement dans l'enseignement supérieur est porteur d'abord de retour sur investissement rapide et un investissement utile parce qu'il va générer d'autres en boule de neige, d'autres rapports, d'autres ressources, d'autres améliorations, etc. Il va aider, en plus, à travers avec les crises économiques de quelques années, il n'y a que l'enseignement qui reste, effectivement, à peu près en dehors. Alors, il y a eu des barres, ce qu'on appelle les barres ETO, c'est-à-dire pour qu'un enseignement soit utile à l'investissement et à l'économie, etc., il faut au moins qu'il y ait 40% d'efficience. C'est-à-dire qu'il faudrait que 40% des étudiants acceptent à l'enseignement supérieur avec, effectivement, des diplômes différents. Est-ce que c'est des masters, est-ce que c'est des doctorants, ou bien c'était uniquement peut-être des capacités et des compétences. Donc voilà grosso modo le soutien. En plus de ce HERS, alors les HERS, ce sont des experts. Alors, chaque pays dispose d'un nombre allant de 3 à 9, à 10. Le Maroc en dispose de 10. Et il y a l'organisation des séminaires de formation, de perfectionnement à travers l'Europe. Alors, donc, nous sommes en train de travailler sur le programme 2015-2017. Alors, il y a eu déjà des séminaires d'organiser. Alors, il y a eu Istanbul, Petra, Tbilissi, Bruxelles, etc. Et actuellement, il y a eu déjà la Suède, il va y avoir, disons, Polonia, Varsovie, il va y avoir l'Ukraine, il va y avoir, disons, Barcelone, etc. Et dans tout ça, ce sont des instruments de perfectionnement. Alors, l'assurance qualité, le soutien aux études doctorales, l'apprentissage à l'évaluation, la réforme des processus, enfin des curricula, etc. Donc c'est plein centre de la modernisation. Alors, quel est l'objectif de ces experts? D'abord, il y a une interaction et un échange pour qu'il n'y ait pas de différence ou d'enseignement à plusieurs vitesses, Europe et les pays du voisinage. Donc il va y avoir un rapprochement du gap de langue et de culture, etc. Mais également, ces experts vont aider l'entité en charge de la réforme de l'enseignement à aller plus de l'avant avec ces instruments-là. Donc, parmi cette action 3, il y a le soutien au NEO. Avant, il s'appelait NTO, National Tempus Office. Maintenant, il s'appelle NEO, National Erasmus Plus Office. Donc, l'action 3, le soutien au HERS et l'action et le soutien au NEO fait partie de l'action 3, c'est-à-dire soutien financier d'encadrement, etc. Alors, avec ça, il y a eu quelque chose qu'on appelle l'activité Jean Monnet. Donc, Jean Monnet, des gens, je crois, ils connaissent, c'était l'un des fondateurs de l'Union européenne, etc. Au départ, l'idée était très difficile parce qu'il faudrait faire des études sur, c'est-à-dire faire connaître l'Union européenne, ce qui se passe, le processus d'unification, etc., d'élargissement, etc. Alors, quelques chiffres. En 89, il y avait 150, projets concernant le module. Après, en 2014, il y a à peu près 2360. Et ça, c'est financé à 30 000 euros pour 40 heures de cours. C'est un module. Puis, il y a quelque chose qu'on appelle des chaires. Alors, en 89, il y a eu 46 chaires. Actuellement, en 14, il y a 1040 chaires et c'est financé à 50 000 euros. C'est 90 heures de cours, tout compris, etc., etc. Donc, et c'est financé à 50 000 euros. Et il y a ce qu'on appelle les centres d'excellence, où on fait à la fois les modules, les chaires et autre chose. C'est un rayonnement plus important. Alors, c'est financé à 100 000 euros. Et les chiffres, avant 89, il n'y en avait pas. En 98, il y a eu 23. En 2007, il y a eu 105. Et actuellement, il y a 233 centres d'excellence. Et il n'y a pas encore de centres d'excellence dans les pays du voisinage du Sud, parce qu'effectivement, l'utilité, le concept, ce n'est pas encore facile à faire, à admettre, etc. Mais, bien sûr, c'est comme les projets de coopération. Le projet, Jean Monnet, commence en octobre, il prend fin vers février, et ce sont des projets qui sont, évalués par des experts indépendants extérieurs et qui octroient ou qui donnent effectivement le financement pour tel ou tel projet selon, bien sûr, sa pertinence et son utilité et l'innovation. Et j'ai oublié dans cette affaire-là, dans les dialogues 1, 2, 3, le dialogue 3, il y a eu quelque chose de nouveau, en plus de l'utilisation des technologies d'information, des méthodes d'enseignement, etc., les cadres de qualification qui rapprochent le travail, le monde du travail et le monde universitaire, etc., il y a eu la question des réfugiés. Alors, la question des réfugiés a pris beaucoup de temps, étant donné, effectivement, ces aspects à la fois humanitaires et difficiles, etc. Et avant, il y a eu que les Palestiniens en tant que réfugiés dans le monde méditerranéen, mais actuellement, il y a les Irakiens, il y a les Syriens, etc., et qui, effectivement, en plus de l'aspect de l'empreinte économique, l'eau, l'habitat, etc., 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 ben, il va falloir effectivement satisfaire leurs besoins en éducation supérieure et en formation.